up, you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Diebling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour, réalisation signée Daniel Finot. Et ce soir, Anaël Pija et Florian Guettet se font face à notre affiche Walker Evans au Centre Pompidou à Paris. Picasso primitif, c'est au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et nous évoquerons aussi plus rapidement Intuition, Palazzo Fortuny à Venise, et puis l'exposition de Raphaël Borrentini, Odyssée, au Centre d'art contemporain La Traverse à Alfortville. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera à le suivre dans le petit salon pour parler des innombrables expositions Picasso. Puis bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film Saint-Georges de Marco Martins. Après le Centre Pompidou-Metz la semaine dernière, allons à présent au Centre Pompidou-Paris pour y découvrir l'exposition monographique rétrospective consacrée à Walker Evans selon une approche thématique avec 300 photographies d'époque. Le commissariat en est assuré par Clément Chéroux. Mort en 1975, Walker Evans, le photographe américain, a été un des grands témoins du XXe siècle et son influence, on en reparlera sans doute, n'a jamais décliné. Il débute la photographie en 1930 et son travail sur la grande dépression que traversent les États-Unis à l'époque reste sans doute le plus célèbre, avec ses visages graves, marqués, qui nous regardent droit dans les yeux. À l'inverse, on peut dire, il réalisa pendant plusieurs années aussi une série, célèbre elle aussi, dans le métro, à l'insu, pour le coup, de ses modèles. Puis plus tard, il y a aussi la collaboration avec les magazines Times, Fortune, et puis il sera aussi professeur de photographie à Yale dans les dernières années de sa vie. Bon, voilà, toute une vie, toute une œuvre, en tout cas, qui est retracée. En tout cas, c'est la tentative et le pari de Clément Chéroux au Centre Pompidou. Anaël Pija, pour commencer.
Eh ben, en fait, on croit qu'on connaît Walker Evans et on s'aperçoit en voyant cette exposition qu'on en connaît
un petit morceau,
exactement. Quelques petits morceaux. C'est une formidable exposition qui montre d'abord toute la diversité du personnage. On le voit photographe, évidemment, mais on le voit aussi peintre avec de très étranges petites peintures qui sont en fait des peintures de photographe, en quelque sorte. Et puis, on le voit collectionneur d'objets de la culture vernaculaire américaine, c'est-à-dire d'objets utilitaires, d'objets domestiques, d'objets quotidiens. Et il y a deux sections de l'exposition qui sont consacrées à sa collection d'enseignes, d'affiches, de cartes postales, de plaques émaillées. Exactement. Et alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que Clément Chéroux nous invite en quelque sorte à rentrer dans son cerveau. Et on voit les allers-retours qu'il fait entre les images de ses photographies et les objets de sa collection d'une manière tout à fait particulière. Ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, c'est qu'elle n'est pas chronologique, qu'elle est thématique. Je vais revenir à son plan dans quelques instants, mais ça permet entre autres choses de réconcilier les séries et de voir la cohérence de ses obsessions tout au long de son œuvre, qui est en fait une très longue période. Série qu'on voit dans les magazines, vous le disiez à l'instant, et puis aussi dans des images publiées, éditées pour des magazines et pour des expositions.
Oui.
Alors, il y a ce rapport aussi à la littérature, qui était en tout cas de moi tout à fait inconnu chez Walker Evans, qui commence dans ses premières années, dans une époque parisienne, à un moment où il voulait devenir écrivain.
À la Sorbonne.
Comme à la Sorbonne,
normal.
Comme tout le monde, si je peux dire. Enfin, non, en tout cas. Il voulait être écrivain, donc, et en fait, c'est une sorte de double clé de lecture de l'exposition. Il a deux mentors en littérature, si je puis dire, qui sont Baudelaire pour l'esprit et Flaubert pour la méthode.
Il y a pire.
L'esprit de Baudelaire, on peut imaginer ce que c'est. Cette observation, c'est un peu ce que Adjaye a fait pour Paris, Evans l'a fait pour l'Amérique. C'est une observation des rues, du quotidien, voilà. La méthode de Flaubert, je trouve ça intéressant aussi parce que la méthode de Flaubert, c'est une observation du quotidien, une sorte de réalisme cru, mais c'est aussi une sorte d'ironie mordante. Et en fait, je trouve qu'on voit dans certaines images de l'exposition une chose qui m'a surprise, que j'ignorais des photographies de Walker Evans, c'est une forme, je ne sais pas si humour est le bon terme, mais en tout cas une forme de distance aux choses assez amusée que je trouve très plaisante et que je ne connaissais pas.
Après cette brillante introduction, et avant d'en venir au plan, vous savez que Florian Guettet est en face de vous.
Et hein, je laisse à mon cher camarade Florian Guettet le soin de poursuivre le chemin.
Vous reviendrez bien sûr dans cette dispute, Anaëlle. Florian Guettet sur Walker Evans. Vous pensiez tout savoir et vous saviez tout, vous ?
Non, j'étais très loin de tout savoir et je trouve que cette exposition est particulièrement réussie et par son contenu, mais aussi servie par une scénographie absolument remarquable, d'une grande élégance, avec vraiment des choix chromatiques sur les cimaises. Qui m'ont presque donné envie de les mettre chez moi. En fait, on a une sorte de
c'est
dégradé.
Grand chez vous.
On a un dégradé comme ça d'un bleu ciel qui va s'échouer vers une sorte de blanc cassé. Et effectivement, ces interstices où on découvre le Walker Evans plus intime sont disposés dans un bleu nuit très profond qui marque vraiment une forme de circulation avec des pauses. Moi, je me suis senti flottant, circulant là-dedans. Donc, voilà, ça tranche énormément avec la dureté des sujets, avec la sobriété évidemment de ces visages, mais ça m'a permis, moi, effectivement, de trouver une forme de distance au-delà de l'ironie des sujets. Alors, vous l'avez dit, le déroulé est plus thématique que chronologique. Il est malgré tout organisé avec beaucoup de soin, beaucoup de minutie. On est tout le temps tenté de jeter des ponts entre les séries, en partant évidemment de son début très moderniste, on va dire, hein, avec des compositions très géométriques, marquées par l'accumulation, les grands vides, les grands pleins. Et puis, après sa rencontre avec l'icône Kirstein et Bérénice Abbott, quelque chose de plus personnel, où effectivement, il va se consacrer à son sujet vernaculaire, qui est vraiment le maître mot de l'exposition, martelé hein, d'ailleurs de façon très évidente au cours de l'exposition. Alors cette scénographie, elle a l'avantage de présenter en ligne en fait toutes les photographies et du coup de se retrouver nous-mêmes dans la position de voyeur et de passant. Et j'ai trouvé ça particulièrement réussi sur une série de piétons à Détroit que l'on croise en fait à contre-courant, avec certains qui sont affairés, donc qui passent très vite, d'autres qui remarquent l'objectif et qui nous regardent fixement. Et du coup, on simule nous-mêmes cette position de Walker Evans quand il photographie.
Il y a ces deux séries celle-ci dont vous parliez qui date de 41, les passants de Détroit, et puis il y a des séries de... Non, c'est pas ça, je me trompe de date? Non.
Moi, j'étais sur 46, mais...
Alors, 46, c'est celle du métro. Enfin, en tout cas, il y a deux grandes séries de passants dans la rue comme ça, et puis des photos automatiques presque, où Walker Evans s'assied dans le métro avec son appareil.
Mais au jugé, comme ça,
cache,
en douce.
Exactement, on cache son appareil dans son manteau et photographie les gens qui s'asseyent en face de lui. Et en fait, je trouve que là, c'est vraiment un tournant dans son œuvre. Il est totalement débarrassé de toutes les influences modernes, de toutes de tout ce qui a pu l'influencer jusque-là et tout ce qu'il a absorbé en fait des avant-gardes jusqu'à cette époque-là. Il devient vraiment lui-même et il affirme vraiment à travers tous ses visages une forme d'humanité avec une sorte d'évidence, et c'est vraiment une manière d'affirmer ce qui est, comme il le dit dans un des commentaires qui est à la fin de l'exposition et qui est assez remarquable, qui date de quelques années avant sa mort, un documentaire de Sedat Paquet. Il affirme vraiment les choses comme elles sont. Il y a une sorte de frontalité et en même temps qui traduit une humanité invraisemblable dans tous ces regards qu'on voit les uns après les autres. Il y a toute la complexité de... Je trouve qu'il y a vraiment toute la complexité de l'âme humaine dans cette approche. Et, si je peux dire un dernier...
C'était une assise sur le développement de Ferlinghetti que
alors,
je vous offrais.
Pour après, pardon,
gardez
pardon,
pour après,
pardon,
Florian
pardon,
va pouvoir après. Poursuivre. Je vous
oui,
en prie.
Je poursuis en rebondissant effectivement sur ce discours de vérité qui passe par des images de vérité. On s'en rend compte dans la salle un peu clou de l'exposition qui est consacrée évidemment à Limay Burroughs, où on peut marquer une pause et écouter en fait une interview de ce modèle sans doute le plus connu de Walker Evans dans les années, je crois, 70, donc bien plus tard. Après la prise des photos, où elle raconte que effectivement elle a cette vision d'objectivité, d'authenticité même, qui est retranscrite dans ses photos, même si toute sa famille est très déçue par les clichés et refusait en fait, regrettait en tout cas la publication des clichés. Alors ce qui est aussi intéressant dans cette pièce, c'est qu'on voit deux des quatre clichés qui ont été tirés originellement, avec une différence assez mince, inframince, entre la joie et une forme plus attristée, plus moins à l'aise, on va dire, face à l'objectif. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a effectivement une attention portée à ces différences minimales entre ces sujets. Il ne les réduit pas, il ne les réifie pas comme étant un groupe homogène sur lequel on viendrait poser un regard misérabiliste. D'ailleurs, rien n'est misérabiliste dans cette photographie. J'ai été particulièrement frappé de voir la façon dont il traite les intérieurs des maisons, donc des ouvriers, des mineurs, des métayers qui sont en général absentes de figures humaines. Ils présentent des coins, ils présentent des passages qui sont bouchés comme des impasses, comme une forme de métaphore des impasses dans laquelle se trouve cette couche sociale. Au même endroit, on retrouve aussi d'ailleurs une série qu'on lui a commandée sur une crue dans, je crois que c'est l'Arkansas.
Mississippi.
Le Mississippi, merci.
Non mais j'allais en parler, c'est pour ça que je...
Où on est frappé par l'actualité en fait de ces images-là, où effectivement les images de migrants de l'époque, avec leurs habitats précaires, avec leur handicap, avec leur maladie, avec leur solitude, avec le reste de communauté qui en transparaît, nous rappelle évidemment à du photojournalisme très actuel et à la façon dont aujourd'hui est traitée cette question des migrants.
Annelle Pigeon.
Ouais, je souscris absolument à ce que vous venez de dire, mais alors il y a une chose qui me frappait un peu, c'est que vous parliez de Ali May Burroughs, les trois familles en Alabama, qui sont très célèbres, très connues. Finalement, dans ces deux images, en tout cas celle un peu souriante et celle pas de Ali May Burroughs, il y a quelque chose de formidable, mais dans les images du Mississippi... Finalement, pardon, dans les séries d'Alabama, il y a, en fait, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, il a un rapport au documentaire. Clément Chéroux parle de vernaculaire au lieu de documentaire. Et c'est fort intéressant, mais il y a quand même un rapport au documentaire et au travail pour le magazine. Dans la série, pour le Mississippi, sur les crues dans le Mississippi, il y a quelque chose qui m'a énormément touchée. C'est un petit ensemble de photos qui sont d'ailleurs remarquablement accrochées, où on voit des gens en train de faire la queue, pour des tickets d'alimentation. projection probablement, où on voit un gros plan sur les pieds de la file d'attente, des gens dans la file d'attente, un gros plan sur les mains des adultes qui tiennent les gamelles comme ça avec des ronds, qui d'ailleurs font écho à, enfin qui ont un côté très formel quoi dans la photo avec ses cercles. Il y a d'autres photos chez Walker Evans qui ont cette dimension là. Et puis la troisième photo, c'est un groupe d'enfants et la caméra est portée sur les enfants qui semble indiquer que finalement c'est le regard des enfants qu'on voit sur les pieds et sur les mains, un peu plus bas que ceux des adultes. Et il y a dans cette image quelque chose à la fois déchirant, parce qu'on voit la faim, on voit la misère, et en même temps une sorte de tendresse et de malice qui est formidable, je trouve. Et qui est encore plus formidable que presque les photos qu'on connaît, qu'on connaît très bien d'Ali Mebereus.
Florian, qu'était ?
Oui, et puis moi j'étais assez frappé par cette capacité déjà à changer de registre et à s'illustrer dans quelque chose, dans un registre on va dire plus abstrait, plus fragmentaire. Je pense notamment à ces photos de déchets, de rebuts, de mégots au sol.
Moi je connaissais pas du tout, moi je crois qu'il avait fait que des portraits Walker Evans. C'est vraiment l'image qu'on en a. Il y a beaucoup de photos dont les personnes, les humains sont absents.
Tout à fait. Et alors, il pousse même le curseur un peu plus loin en faisant des sortes de fossiles ancrés dans le bitume. Il en fait un quadriptyque absolument formidable qui donne encore. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un autre photographe. Donc, j'étais vraiment très surpris par ça et ça donne beaucoup de dynamisme à cette exposition. Et juste une œuvre qui moi m'a beaucoup plu aussi sur laquelle je voulais revenir, c'était une sorte d'allégorie finalement de cette, on va dire, face cachée de la modernité et de l'Amérique triomphale, qui sont deux ouvriers qui portent laborieusement une insigne lumineuse sur laquelle est écrite Damage It. Et du coup, on a vraiment une sorte d'allégorie très simple, alors qu'elle est saisie sur le vif, qu'elle est vraiment captée comme ça dans le réel, qui moi m'a trahi le côté très incisif de son œuvre.
Et qui dit aussi son rapport au langage, parce qu'il y a beaucoup d'images dans lesquelles il y a du texte à travers les affiches, à travers finalement cette notion de vernaculaire des affiches, des enseignes, des cartes postales, etc. permet très bien de montrer tous les paradoxes de Walker Evans, qui finalement montre l'essence de l'Amérique avec les outils d'un Européen au début, puisque finalement c'est ça, enfin il arrive avec une culture qu'il s'est construite à Paris. Il fait des œuvres d'art avec des sujets mineur, et finalement parler de ce style vernaculaire, c'est en soi un paradoxe que Clément Chéroux montre remarquablement. Vous parliez des images de déchets, mais il y a une autre série qui est formidable, qui est la série de photographies d'objets africains, qui est une commande qui lui a été passée pour les collections du MoMA, enfin en tout cas une collection d'objets africains qui sont montrés dans une frontalité parfaite, et cette frontalité va de pair avec cette affirmation d'être là dont je parlais tout à l'heure. Il y a une sorte d'évidence des objets qui sont montrés dans toute leur autonomie et en même temps dans une sorte de présence réelle, quoi. Ce qui n'est pas sans lien avec un des sujets dont on va parler peut-être tout à l'heure.
Certainement.
Et du rapport de Picasso avec les objets africains.
Nous sommes tout à fait d'accord, vous faites déjà une transition. Mais vraiment, dire que cette exposition, alors j'ai pas cité Julie Jones qui a assisté Clément Chéroux pour le commissariat de cette exposition. Le catalogue est vraiment... j'ai lu que c'était la première véritable rétrospective de Walker Evans en France. J'avais du mal à le croire, mais il semble que ce soit le cas. Sinon, il ne serait quand même pas permis de l'imprimer. Donc déjà, en soi, c'est une bonne chose. Et du coup, le catalogue est vraiment une somme. Et puis en plus, avec une très belle qualité. Bon, on peut l'attendre du Centre Pompidou, mais enfin, c'est vraiment le cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et aussi à le feuilleter. Bon, il est dirigé par Clément Chéroux. Et puis, un petit ouvrage extrêmement précieux, qui est un entretien de Walker Evans avec Leslie Katz, qui s'appelle Le secret de la photographie. Alors, il y a cette Anne Bertrand qui a fait cette édition. Donc, il y a un texte, assez long texte introductif d'Anne Bertrand. Mais vraiment, les propos de Walker Evans, c'est extrêmement simple à chaque fois. Et puis, lui-même dit que... Il ne faudrait pas que les artistes parlent, donc ça va bien de le faire une fois, mais il ne faut pas le faire deux, en gros. Et cette conclusion absolument magnifique, à la toute fin, il dit, après quand même un certain temps d'entretien avec Leslie Katz, il dit « Je pourrais résumer tout cela en disant que l'art est une chose trop intime, J'espère ne pas être une chose très intime, pardon. J'espère ne pas être trop brutal en lançant cette remarque dans votre machine parlante. Ça se termine comme ça l'entretien. Il traduit l'entretien par Bernard Höpfner. C'est vraiment un tout petit livre qui dit des choses à la fois très simples, très lumineuses et qui est un vrai complément, presque. On peut le lire en se promenant dans les espaces du Centre Pompidou.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'exposition elle-même se termine sur une des citations de Volker Evans, qui est une bonne expo et toujours une leçon pour le regard. Et moi, j'y suis totalement.
On est d'accord avec ça, Annel Pina.
Oui, la conclusion qui conclut encore le. c'est ce rapport, c'est cette photographie qu'il fait de la photographie, en fait, et qui est un sujet de réflexion passionnant.
Bon, ben voilà, on ne se dispute pas, mais on recommande tous très chaleureusement, sur ton bien, on a jusqu'au 14 août pour voir l'expo Walker Evans, dont j'espère qu'elle battra des records, puisqu'on parle toujours en termes quantitatifs aux idées d'exposition. C'est au Centre Pompidou, qui continue à fêter ses 40 ans, le catalogue donc édité par le Centre, le petit livre aussi, Le secret de la photographie, beaucoup de choses pour accompagner, poursuivre la visite de cette exposition consacrée à Walker Evans.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Picasso, le Palazzo Fortuny et Raphaël Barantini. Avant cela, nous suivons Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, la martingale Picasso.
La martingale. Pourquoi Picasso est partout, tentait d'expliquer justement le journal du dimanche il y a une semaine. Question pertinente, hein, tant le nombre d'expositions consacrées à l'artiste a tendance à grimper de manière exponentielle, oui, ces derniers mois, plus encore dans ceux à venir. Outre Paris, où ce sont déjà au moins deux expositions majeures, hein, Olga Picasso au musée du même nom et Picasso primitif au Quai Branly, Rouen et sa région, où Picasso a séjourné 5 ans, en accueil aussi 4, ajoute France Bleu Normandie, si l'on compte effectivement cet atelier de sculpture qu'était le manoir de Boisgeloux dans l'Eure, ouvert pour la première fois cette année au public. 6 expositions de Rouen jusqu'à Paris, voire déjà 7, car même l'aéroport Charles de Gaulle présente 35 œuvres dans une exposition qui s'appelle Picasso plein soleil. Alors pourquoi cet engouement, alors qu'on n'est même pas une année anniversaire Picasso? Il est vrai que l'intérêt n'est pas seulement français, on est quand même au 80e anniversaire de Guernica, ce qui fera l'objet d'une exposition spéciale au Musée Reina Sofia de Madrid. Pour les autres, s'agit-il seulement d'une coïncidence ou d'une bonne manière d'occuper le terrain de l'été culturel, comme le note actu.fr. Il y a deux raisons à cela, selon le JDD. D'abord, la volonté nouvelle du musée Picasso de Paris, rouvert en 2014, vous le savez, de son directeur Laurent Lebon, ancien du Centre Pompidou-Metz. C'est lui qui a impulsé en grande partie la déferlante d'expositions à venir, explique le JDD. D'ailleurs, dans Connaissance des Arts, fin janvier, Guy Boyer annonçait le lancement d'un programme Picasso Méditerranée 2017-2019, méga projet, dit-il, ça fait un peu penser à la Commission européenne, étalé sur 3 ans, avec des expositions dans 60 institutions, parmi lesquelles des musées à Naples, à Rome, Barcelone, Marseille, Montpellier, Antibes, Arles, Avignon, Toulouse. Le chiffre reste encore un peu flou aujourd'hui, mais selon les Échos, ce serait 36 expositions, c'est déjà pas mal. On devrait trouver aussi Chypre, la Grèce, Malte, la Turquie, le Maroc, c'est à confirmer. Pour le Maroc, non, ça s'est fait depuis lundi. Et puis Picasso attire toujours. Toujours, note le JDD, la petite Pinacothèque de Malaga qui s'est vue prêter 166 œuvres sur 3 ans par les héritiers espagnols et le musée le plus visité d'Andalousie avec près de 560 000 visiteurs en 2016. C'était 212 000 visiteurs pour l'exposition Picasso, un génie sans piédestal au MUCEM en 2016. Je cite ce chiffre parce que c'est autant que pour Marseille, capitale européenne de la culture. Auprès de Laurent Lebon, d'ailleurs, j'ajoute qu'on retrouve Émilie Bouvard, l'ancienne commissaire de l'exposition Picasso et les maîtres, là, en 2009 au Grand Palais. Alors l'argument ne serait-il qu'économique? Laurent Lebon, comme directeur d'un musée national qui regroupe une grande partie des collections et fait aussi une grande partie des prêts, invoque bien sûr l'impératif de diffusion des œuvres, 1600 prêtés l'année dernière, mais aussi le souci d'une cohérence, hein, il le dit, une grande saison autour de la Méditerranée qui insuffle sens et dynamique du Maroc à l'Italie. Ainsi l'exposition au MoMA à Rabat. Effectivement, quant à la cohérence, on peut classer ces expositions, je dirais, en 3 genres. Celle qui rend renvoie à la présence de l'artiste en un lieu ou à une matière, celles qui tentent d'éclairer une période et celles qui le font dialoguer, ou en tout cas dialoguer ses œuvres avec d'autres œuvres. À cet égard, deux se répondent bien, en croire Olivier Sénat dans Télérama, Olga Picasso qui tente d'expliquer le passage du classicisme au surréalisme, hein, l'abandon même du classicisme, par la relation assez dure à Olga à l'époque, la danseuse classique justement, et Picasso primitif, lui qui tente d'explorer la relation de fond que Picasso entretient avec l'art premier. C'est d'ailleurs l'argument esthétique mis en avant par Judith Benhamou dans Les Échos en avril, au moment du prêt à Malaga, citant Bernard Ruiz Picasso, le petit-fils de Pablo et d'Olga. D'une certaine manière, dit-il, Picasso est un outil qui permet de comprendre une grande partie du XXe siècle, une vision de l'histoire bien utile en cette période tourmentée. J'ai presque oublié de dire qu'il y a près de 60 000 créations de Picasso, dont 25 000 peintures et dessins. Alors, renflouer ou renforcer des caisses de musée ou proposer des visions innovantes, à quoi va servir cette débauche d'exposition ?
Oui, de l'avantage d'avoir énormément produit tout au long d'une longue carrière, c'est qu'effectivement, on peut en faire 36 ou 360 en même temps dans le monde entier. L'expo Picasso, ça ne manquera pas de matière. Bon, et puis il y a quand même la qualité de la production, hein, parce que le nombre, il y en a d'autres aussi. Picasso et les maîtres Picasso Mania, l'épidémie est quand même déjà ancienne. Et c'est vrai que le musée Picasso Paris joue beaucoup de cette politique de prêt, et on comprend très bien pourquoi, ça sert à beaucoup de choses et à financer aussi pas mal de choses. Allez, Florian Guettet pour commencer en réaction à cette Picasso manie qui est vieille, hein.
Oui, qui est vieille, c'est un cas d'école Picasso en fait, c'est un cas d'école pour les écoles d'art, mais aussi pour les écoles du marché de l'art. Je trouve qu'effectivement, il fait partie de toute une tendance au branding culturel où on va s'appuyer sur un nom plus force que sur le contenu des expositions. Il y a une forme de clientélisme évidemment qui est poursuivie dans ce choix de curatorial. C'est sûr qu'on voit justement Picasso Mania qui faisait 400 000 entrées, eh bien ça fait envie, hein, ça justifie beaucoup de choses. C'est devenu une sorte de produit culturel de masse. Et je suis pas sûr que ça serve véritablement le mythe, puisque j'ai l'impression que t'es devenu un peu une sorte de marronnier pour beaucoup de gens, et que dans le monde de l'art ou professionnel de l'art, eh bien ça a tendance à le discréditer. J'ai l'impression, d'ailleurs, on a fait des études, pardon, des enquêtes d'opinion auprès des artistes sur Picasso, sur les grands maîtres, sur leurs références. Et évidemment, Picasso est un incontournable et cité comme tel, mais il est plutôt mal aimé. C'est-à-dire qu'il est jamais, c'est plutôt une sorte de figure repoussoir plutôt qu'une vraie maître qu'on suit. J'ai l'impression même que c'est une sorte de passage obligé pour aujourd'hui les artistes que de devoir tuer ce père du modernisme. Alors, on l'a dit, effectivement, le nombre de ces productions est inépuisable, presque, hein, 60 000 œuvres, mais alors, j'avais une autre donnée, c'est le musée Picasso, qui a quand même 300 000 pièces d'archives. Donc là, on comprend effectivement que Laurent Lebon soit très actif, et on peut saluer son volontarisme, effectivement, il a envie de faire voyager ses collections, il déploie une stratégie pour, et il réussit, hein, forcé évidemment de le constater. Moi, ce que je regrette, c'est que ça se fasse sûrement au détriment de la qualité du projet scientifique autour de ces expositions-là, que je trouve souvent superficielles. Par exemple, j'étais assez étonné de voir qu'on n'avait pas eu une vraie exposition sur la période cubiste de Picasso, qui semble pourtant être quand même quelque chose d'assez entendu, assez courant, et bien avant les années 2000 et 2007 plus précisément, donc c'est quand même fou. Cette année, on parlait d'Olga, on en a parlé sur cette antenne, c'était quand même la première fois qu'on avait une exposition qui était consacrée à cette muse, malgré tout importante, puisqu'elle était la première femme de Picasso. Voilà, moi je suis assez mitigé sur ça. Je pense que si on privilégier la qualité à la quantité, on s'en sortirait un peu mieux. Effectivement, de toute façon, c'est pas nouveau. Les statistiques en 2007, donc il y a 10 ans quand même, c'était pareil, une quarantaine de grandes expositions internationales consacrées à Picasso. Donc finalement, c'est une tradition qui persévère. Et on n'a pas besoin effectivement d'attendre d'avoir des anniversaires. J'étais assez surpris de voir, je crois que c'est Picasso Mania qui célébrait le 125e anniversaire de la naissance. Donc là, ça devient un petit peu absurde.
C'est absurde, mais et puis il y a aussi toutes ces confrontations. Alors, Matisse Picasso, logique. Picasso Giacometti, c'était peut-être plus surprenant. C'était tout récemment encore Musée Picasso. Mais voilà, il y a aussi
Picasso
tous ces...
Braque, c'est quand même
Picasso
essentiel.
Braque, ce qui n'est pas rien. Enfin, là aussi, on peut décliner pendant un certain temps Anaël Pigeat. Mais alors, le problème, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on ne perd pas un peu d'appétit alors bien sûr que c'est un immense artiste, mais avec cette sensation que encore une expo Picasso, on parlera de Picasso primitif dans un instant, que comment vous le vivez en tant que critique d'art?
Je vais partir dans une autre direction, parce que c'est plus drôle.
D'accord, je vais sortir du studio, moi.
C'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais non, bien sûr, évidemment qu'il y a un syndrome 7 de table je peux pas parler de réception, mais en tout cas dans la manière dont on peut voir des œuvres de Picasso passer dans des boutiques de musées aux prises uniques des années 60. Non, enfin bon. En tout cas, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a une chose nouvelle qui se passe. C'est-à-dire que il y a un changement de génération dans les exégètes de Picasso. Je ne sais pas si c'est lié à la vague complètement folle qui vient d'être décrite. Mais en tout cas, la première génération des exégètes de Picasso sont ceux qui l'ont connu. Elle a été suivie par les disciples de ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a une génération nouvelle, que ce soit Laurent Lebon au Musée Picasso à Paris, que ce soit Emmanuel Guigon à Barcelone. Et ce sont aussi des profils de conservateurs ou de directeurs de musées qui ne sont pas des picassiens depuis 30 ans. Or, j'ai encore le souvenir d'une époque où le Musée Picasso était géré par des gens qui vivaient avec Picasso depuis 30 ans. Ce qui avait d'ailleurs quelque chose ce qui avait d'ailleurs quelque chose de totalement fascinant et qui faisait partie du mythe, en tout cas à mes yeux, de Picasso. Mais donc peut-être que cette ouverture des exégètes est pour quelque chose aussi dans ce sujet-là. Et puis l'autre aspect évident de la situation, c'est que l'ampleur de l'œuvre de Picasso, enfin Picasso est un cas d'école, comme vous le disiez, Florian, pour les étudiants en politique culturelle, mais sur le fond et la nature de son œuvre est aussi une chose tellement folle qu'elle est tellement diverse et tellement pharaonique qu'elle a de quoi nourrir toutes ces expositions. Et au fond, c'est une question du niveau d'exigence auquel on se place. Bien sûr qu'il y a des mauvaises expositions Picasso qui sont conçus pour faire de la billetterie et celles-là ne nous intéressent pas. Mais il y a aussi un grand nombre d'expositions qui aujourd'hui sont d'une actualité extraordinaire et des angles entiers de son travail qui n'ont pas encore été explorés. On parlera tout à l'heure de Picasso primitif, mais cette exposition peut s'insérer dans des débats actuels, dans le rapport que nous avons aux arts primitifs, avec une contemporanéité extraordinaire. Et l'œuvre de Picasso, à mes yeux, a cette richesse-là qui permet de nourrir des expositions encore pour quelques dizaines d'années. L'autre chose, enfin, dans le descriptif que vous faisiez, Xavier, c'est que le fait de l'ouverture des collections, la libération, en quelque sorte, de Picasso par cette nouvelle génération de conservateurs et de directeurs de musées, qui a pour effet aussi de faire circuler les œuvres, me semble assez intéressante. L'exposition du Maroc qui vient d'ouvrir après beaucoup de péripéties, qui a été très retardée, dont l'ouverture a été très retardée et qui a ouvert il y a quelques jours. C'est très intéressant, c'est très surprenant d'imaginer que c'est la première exposition de Picasso qui ouvre ses portes au Maroc. Pour toutes les écoles d'art, pour tous les jeunes artistes qui sont installés là-bas, et ils sont nombreux, je pense que ça aura des effets et que c'est une chose qui est intéressante à observer.
Xavier Martinet ?
Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que ça me semble tout à fait exact ce que vous dites, Anaël. Disons, ce côté renouveau de la politique muséale, effectivement, avec certains grands directeurs de musées, jeunes directeurs de musées, comme ça, dans le paysage français. Vous avez cité Laurent Lebon. Bien évidemment, c'est lui qui dit « Notre musée a rouvert en 2014 », Picasso offre une œuvre qui se renouvelle sans cesse. Notre rôle consiste à inviter des historiens qui vont porter un regard inédit sur sa création. C'est exactement ce que vous disiez. Vous avez parlé d'Emmanuel Guigon qui est au musée de Barcelone désormais. J'ajouterais peut-être Jean-François Chouinet qui est au MUCEM depuis 2014 également. Avec cette volonté d'ouverture, on le voit, c'est l'exposition de Giacometti qui vient pour la première fois là en ce moment à la Doha Fire Station, donc au Qatar. Là-dessus, il y a effectivement au moins, si ce n'est déjà un renouvellement effectif du regard, en tout cas une volonté de décloisonner, d'amplifier. C'était assez clair déjà, il me semble, à l'époque dans ce qu'on entendait dire du ministère de la Culture et de ce qu'il voulait pour le musée Picasso dans cette fameuse époque de transition en 2014.
Plus rien.
Oh, pas grand-chose, mais simplement, ce serait quand même bien d'interroger, à savoir si on peut se trouver d'autres origines aussi pour le contemporain, si on peut aussi, parce qu'il y a quelque chose d'assez exclusif quand même dans la représentation de Picasso dans le paysage muséal aujourd'hui, qui me semble moins regrettable. Et j'attends avec aucune impatience le sac Vuitton à l'effigie Guernica.
Bon, aucune impatience. En effet, on va reparler de Picasso dans un instant. Pour l'heure, on ferme les portes du petit salon. Avant de revenir à Picasso, deux détours pour des recommandations chaleureuses des critiques présents ce soir. Et on commence avec Anaël Pijard, retour de Venise. Venise, on en parlera dans... deux semaines,
exactement.
Je crois. On en fera une spéciale Biennale de Venise dans la dispute. En attendant, un petit avant-goût.
Exactement, un avant-goût qui est, je commence par la pause dans la Biennale, en fait. commence par le moment de paix. Non, il y en a d'autres. Mais en tout cas, la visite par le Palazzo, la visite du Palazzo Fortuny est toujours dans les quelques jours, en tout cas que je passe à Venise, pour voir la Biennale, un moment très particulier. C'est la sixième exposition qui a lieu dans ces murs et c'est la dernière. Donc c'est aussi un petit coup de chapeau pour cet ensemble qui fait bloc, en fait. Et cette dernière exposition est comme une sorte de synthèse des cinq précédentes. Alors, pour dire les choses un peu plus précisément, la scène se passe au Palazzo Fortuny, qui est la maison de Mariano Fortuny, qui est un personnage né en 1871 et mort en 1949, qui était à la fois un Espagnol, qui était à la fois créateur de tissus, peintre, architecte, scénographe, enfin une sorte d'inventeur multitalent. Ce palais, c'est son atelier, c'est sa maison, on y voit ses tentures, on y voit des œuvres de lui. Et là-dedans, donc dans ce décor qui est vraiment extrêmement spectaculaire, la fondation Axel et May Vervoorde, aidée par Daniela Ferretti, qui était la commissaire avec Axel Vervoorde de ces quelques expositions, ont installé tous les deux ans une série d'expositions sur des grands thèmes universels. C'est un peu la déclinaison, ça rappelle l'exposition Forme simple, en fait, qui avait lieu au centre Pompidou-Metz avec le commissariat de Jean de Loisy et la fondation Hermès. Ce sont des grands thèmes, comme par exemple il y avait Proportio l'année dernière, enfin il y a deux ans, il y avait Infinitum, il y avait Art Tempo. Là, le thème de cette année, c'est intuition.
En français,
j'aurais du mal à dire en italien. En tout cas, l'intuition, c'est une sorte de rapport de connaissance directe, comme ça, de rapport direct aux choses. Finalement, on est assez près, paradoxalement, et de Walker Evans et de Picasso primitif, mais ça, c'est vraiment un détour. On se promène dans les différents étages du palais et on rencontre des œuvres de toutes les époques. Dans une sorte de rapport très direct aux œuvres, très généreux, extraordinairement plaisant, poétique, qui nous fait parcourir toutes les origines de la modernité, les origines de l'art et de la modernité à aujourd'hui, et qui fait aussi ce rapprochement entre les origines de l'art et la modernité, qui était le principe de Forme simple. Alors donc, on commence au rez-de-chaussée par une série de stèles néolithiques, dont la Dame de Saint-Sernin, plongée dans le noir, parce que tout cet accrochage est souvent, et là en particulier, extrêmement théâtral. Donc ça, c'est simplement époustouflant. On a l'impression d'être comme ça dans le sous-sol du palais. La salle se prolonge sur un Basquiat qui explose de couleurs dans le noir. Là aussi, c'est formidable. On monte dans une sorte d'entresol où on se trouve devant des... Standing Structures for Human Use, donc des structures debout pour usage humain de Marina Abramovitch, dans lequel on est invité à communiquer avec son voisin par l'intermédiaire de cristaux, comme ça, une sorte de sculpture à performer par les visiteurs. Ça met en condition assez efficacement aussi pour passer à l'étage au-dessus, dans lequel, qui est le piano, le grand étage, magnifique du palais. On se trouve face à face avec une immense tenture d'Elana Tsui, faite de petits tessons de bouchons de bouteilles de métal, qui fait des reflets un peu dans le noir, dans l'obscurité, je bafouille, également.
Elle était à l'extérieur, non, une année,
c'était... Elle était, oui, elle a été montrée à l'extérieur, absolument.
Sur la façade du Palazzo Fontini.
Du Palazzo Fontini, absolument, absolument. Vous avez raison, je l'avais déplacé à l'Arsenal. En tout cas, on continue, il y a une salle fantastique avec un Yves Klein dans le noir, qui est d'une luminosité folle. Il y a dans des armoires des petites œuvres qui dialoguent, par exemple un tableau de Quirico et un petit Nuit et Jour de Calder, qui sont extraordinaires. Il y a un petit Elsewhere Skelly qui dialogue avec un masque de serpent Yoruba, parce qu'il y a aussi des objets africains. Et puis je passe les murs écaillés qui dialoguent avec les dessins de Saï Tombly pour arriver, et j'en termine, à Kim Suja, qui est une immense installation participative. C'est l'artiste coréenne qui nous invite à malaxer des petites boules de terre glaise et à les poser sur une gigantesque table en bois clair, ovale, en bois clair, et qui est une sorte de galaxie de la mémoire et qui est un rapport, nous explique-t-elle, et vraiment il faut l'expérimenter, à l'immatériel et au matériel. C'est-à-dire que, pour essayer de dire les choses simplement, par ce rapport à la matière, elle nous donne... Donc le fait de malaxer ces petites boules de terre glaise, elle nous donne à éprouver une forme d'immatériel qui se rapporte au sujet de l'intuition, etc. Enfin, il faut y aller, c'est formidable.
Éblouissement sur éblouissement. Total. Vous écoutez Anaëlle Pigeat, Intuition, au Palazzo Fortuny à Venise, qui dure le temps de la Biennale, c'est-à-dire jusqu'au 26 novembre, ce qui laisse quand même le temps, on l'espère, pour nombre de ceux qui nous écoutent, d'y aller voir. Florian Guettet, un peu plus près de nous. Dans ce studio parisien, puisque vous allez parler du Centre d'art contemporain La Traverse d'Alfortville.
Oui, alors ce centre d'art qui, je dois dire, a une programmation d'une grande qualité depuis le début, qui est audacieuse, qui est jeune, qui propose des expositions personnelles à des jeunes artistes, dont fait partie Raphaël Barontini, donc quelqu'un qu'on pourrait placer dans une filiation avec Théo Mercier, c'est-à-dire avec une sorte de recréation d'une archéologie du contemporain qui mélange énormément de références différentes, la culture vaudou, créole, la culture antique, égyptienne, grec, l'art classique européen avec des portraits de cour de Marie-Antoinette et le tout orné de motifs végétaux ou astronomiques, des galaxies, des confettis aussi, puisqu'il y a quelque chose de très pop dans sa palette chromatique et déjà reconnaissable. Alors il nous convie à une odyssée EY pour une orthographe un peu plus jeuniste, on va dire, dans laquelle
ou anglaise.
Non, mais il y a le posé aussi.
Ouais,
et je crois qu'il joue vraiment véritablement sur ce double sens. Qui nous emmène, donc une sorte de retour à Ita complètement fantasmé, dans des formes indisciplinées, exubérantes et assez ludiques. Alors on est frappé d'emblée par la diversité des matériaux, on rentre dans une première salle avec de grands drapés qui sont ornés de ces assemblages un peu chimériques qui ressemblent à des figures totémiques, qui sont plus des tentures ou que des étendards, hein. Évidemment ça rappelle les voiles du bateau d'Ulysse, tenues par des cordages colorés. Dans tout l'espace, on retrouve les œuvres graphiques assez reconnaissables de Raphaël Barontini, qui fonctionnent sur ce même principe de métissage culturel des symboles, des peintures à l'acrylique ou des sérigraphies sur papier ou sur tissu. Et puis deux installations, une installation inspirée du monde marin, évidemment, qui va réinterpréter le radeau de la Méduse, mais en y intégrant une réflexion sur le monde postcolonial et aujourd'hui la mémoire postcoloniale, ce qu'elle peut dire. Et puis une dernière salle qui est occupée par une composition très formelle cette fois, dominée par des structures très lâches, très avachies, un peu à la Robert Maurice, mais en bien bien plus colorée, vraiment même brillant, un petit peu kitsch. Il joue, il flirte en tout cas avec ces codes là. D'une façon générale, en tout cas, c'est cette générosité, cette opulence et cette originalité qui m'a frappé dans une exposition qui est vivante, un peu débordante, mais néanmoins très tenue, très équilibrée. Et c'est un voyage, évidemment, que je recommande chaleureusement.
Alors peut-être que les Vénitiens qui nous écoutent ont jusqu'au 24 juin pour venir à Alfortville pour découvrir cette exposition Raphaël Barontini Odyssée au Centre d'art contemporain La Traverse donc d'Alfortville. Donc vous faites bien, en effet, de saluer la qualité de programmation.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique et prolongement du petit salon encore, puisque nous allons parler d'une nouvelle exposition consacrée à Picasso. Celle-ci se tient au musée du Quai Branly Jacques Chirac, s'intitule « Picasso primitif ». Yves Le Fur en est le commissaire. La question posée par l'exposition du Quai Branly est simple à énoncer. Quel lien Picasso a-t-il entretenu avec les arts non occidentaux ? La réponse est évidemment moins évidente. Alors on sait que Picasso s'est plus à déclarer « l'art nègre connaît pas », une dénégation évidente tant par la collection personnelle du plasticien que par nombre de références dans sa correspondance qui manifeste un intérêt très évident, démontré d'ailleurs, on va en parler dans la première partie de l'exposition, la seconde partie proposant elle plutôt une mise en regard d'œuvres de Picasso et d'œuvres issues de la collection du musée. C'est Florian Guettet qui commence cette visite avec nous.
Oui, bah vous dites que la question posée est simple, mais alors la réponse est plutôt alambiquée. Moi, j'ai trouvé cette exposition très riche dans son contenu, mais très lourde dans sa scénographie et sa façon d'être présentée. Vous le disiez, il y a deux parties. Une première partie qui est plutôt documentaire, chronologique, avec une chronologie très appuyée, puisque chaque année est présentée.
On sait qu'avec Picasso, il y a de la matière, on vient de le dire.
Oui, bah, je crois qu'il ne faut pas rajouter la matière à la matière.
Alors, mai 42.
Oui, bah, c'est un peu ça quand même.
Ouais,
hein.
Un peu, oui.
C'est un petit peu ça. Et alors, non seulement ces dates sont placardées en énorme, mais en plus elles sont accompagnées de citations, de lettres, de traductions, de réponses, de commentaires, d'articles de la revue Cahiers d'Art, d'exemples de Neger Plastique puisés dans Neger Plastique de Karl Einstein. Je crois que si on met bout à bout tous les écrits qui sont sur ces 6 mètres, on ne doit pas être très loin des 2 tomes de Guerre et Paix. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations pour une première partie. Si bien que quand moi je suis arrivé à la fin de cette première partie, je pensais que l'exposition était terminée.
Vous étiez épuisé.
J'étais fatigué.
Mais il ne faut pas tout lire, vous savez.
Non, mais j'aimerais bien qu'on fasse le choix pour moi aussi, qu'on me présente des expositions comme ça. Et la deuxième partie, effectivement, met en regard cette fois dans une forme de laconisme, une forme de presque de silence, les œuvres d'art premier, primitif,
non occidentaux,
de sociétés non industrielles. il faut s'interroger aussi là-dessus.
Oui, bien sûr.
Les aligne, sans hiérarchie, avec les œuvres de Picasso.
Ou les mélange.
Voilà, alors pour le pire comme pour le meilleur, souvent pour le pire, très honnêtement, j'ai trouvé que ça avait une façon à provoquer des rapprochements ou des interprétations qui n'accompagnaient pas finalement la visite et qui n'étaient pas forcément justifiées. Alors, je vais appeler tout ça par des exemples, vous inquiétez pas.
Oui, parce que pour le coup, c'est vrai que la deuxième partie n'est pas dans l'explicatif.
Alors, elle est censée être dans le... peut-être qu'il en aurait fallu quelques-uns.
Oui, c'est bien ce que j'entends dans votre
Par exemple,
regard.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... le parti pris est déjà de mettre les tableaux à même hauteur que les statues, donc dans une forme de corps à corps, comme ça. Je ne vois pas bien ce que ça vient apporter, en fait, puisqu'on n'a pas de recul nécessaire pour voir les représentations, qu'on ne présente pas des œuvres en 2D de la même façon que la 3D pour des questions bêtement physiques et perceptives. Donc, j'ai trouvé ça déjà assez culotté et un peu inutile. Et puis, on a des rapprochements. Alors, parfois, ça marche bien par exemple, on présente tous les masques. Et là, effectivement, moi, j'ai dû me référer au cartel parfois pour savoir où était le masque de Picasso parmi les masques, notamment de Nouvelle-Guinée. Mais ça marche moins bien, par exemple, sur des statues du Gabon, où on nous présente des statues du Gabon à côté d'un buste de femme. Et si on regarde rapidement, effectivement, il y a un même matériau et une taille à peu près similaire. Mais si on regarde un peu plus attentivement, on a chez Picasso un trait très ciselé dans le visage et par contre un corps beaucoup plus boursouflé. Tandis que les statues du Gabon, c'est précisément l'inverse. C'est un visage complètement simplifié, avec un visage, pardon, complètement grossier, avec un corps très élancé, très fin. Donc je suis pas bien sûr que ce primitivo-centrisme, on va dire, de l'interprétation de Picasso serve véritablement l'exégèse de Picasso. On voyait ça déjà dans la première partie avec comme ça une forme de jeter là tableaux du douanier Rousseau, comme s'il n'y avait pas différence à faire entre l'art naïf et l'art premier. Je trouve ça particulièrement regrettable. Dans la suite,
Tanel est pas d'accord à peu près en rien de ce que vous dites, mais c'est très bien. Ça promet une dispute.
Voilà. Allez-y, dans la suite de l'exposition, donc cette deuxième partie, on a des hybridations homme-machine qui sont mises sur le même niveau que les hybridations homme-animal. Je suis pas sûr qu'on puisse faire ces raccourcis. Le baiser, le monstrueux, le libidinal, qui est rattaché forcément à ces formes d'animaux archaïques et ce bestiaire archaïque que représenteraient les arts primitifs. Alors, on en a parlé la semaine dernière, c'est aussi une façon de montrer les difficultés de couple et le côté très castratrice d'Olga Picasso. Donc tout ça est un peu édulcoré, homogénéisé, vu à travers ce prisme-là, jusqu'à cette dernière salle qui là par contre m'a beaucoup plu, la toute dernière salle.
Alors tiens, vous y reviendrez tout à l'heure pour la dernière salle. On garde l'effet de suspense pour savoir qu'est-ce qui a plu à Florian Guettet dans cette expo qui l'a visiblement pas mal agacé. Suspense.
Anna Pigeon. C'est vrai que la dernière salle, je suis d'accord avec vous, la dernière salle finale, mais je vais revenir au début.
Pour faire une symétrie, vous auriez pu détester la dernière salle.
Oui, non, mais je vais le dire reste. Le contraire quand même avant de ce que Florian dit. Enfin, en tout cas, cette exposition, effectivement, en deux parties, je suis d'accord pour dire que la première partie est trop longue et un peu lourde par rapport à la deuxième. Mais je vois cette exposition comme doublement expérimentale dans ces deux parties. Et ça, je trouve ça intéressant.
Ça fait déjà sourire Florian, cette assertion-là.
Premièrement, parce que la première partie, au fond, est une sorte est une recherche que nous livre Yves Le Fur, qui est le relevé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les objets que l'on voit, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans la première partie de l'exposition, sont des objets de la collection de Picasso. C'est pas un détail. Et en fait, il nous livre une sorte d'enquête policière dans laquelle il y a un jeu entre les photographies qui sont reproduites sur les murs et les objets.
On
dont certains
bien
sont
les
présents,
objets, on entoure on bien fait des rouges, flèches.
D'accord, bon, d'accord pour ça. Mais néanmoins, j'aime qu'on me montre cette recherche qui a été faite et qui fait en quelque sorte le relevé de cette présence constante.
Des sujets, le sujet, il est vraiment légitime, passionnant.
De cette présence constante des arts primitifs chez Picasso. Ensuite, la deuxième partie qui, elle, met en scène des objets des collections du musée Branly, ce qui est très différent, est une sorte d'essai mené par Yves Le Fur qui est pour interroger les rapports de Picasso avec ses arts primitifs, est une sorte de jeu du regard, est une manière, est une sorte d'invitation qu'il nous lance à nous exercer le regard. Et alors moi, ça m'a beaucoup amusée de regarder les vitrines et de chercher ce qui était, parce que parfois, en effet, il y a des passages. Bon, on voit en fait très vite les œuvres de Picasso, mais quand même les rapprochements, en tout cas, moi m'ont intéressé. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ces rapprochements tentent de cibler, de définir ces rapports de Picasso avec ses objets. Et pour essayer de le dire bien, il ne s'agit pas seulement d'un rapport de forme, il s'agit plus de quelque chose qui a trait à la magie. Et en soi, ça, je trouve ça une chose surprenante, parce que le fait que Picasso se soit inspiré d'objets africains, c'est une idée assez commune. Mais ce rapport à la magie, et dans un texte du catalogue, Gérard Wajman le dit bien, il parle de présence réelle des objets plutôt que d'image. Et je trouve que dans certaines photos de la première partie, on voit le regard de Picasso quand il regarde son tiki, par exemple, ou quand il regarde la folle figure que Matisse lui a offerte et dont il ne voulait pas. Ce n'est pas du tout Picasso maître du monde avec les 250 000 expos dont on vient de parler. C'est un Picasso qui est beaucoup plus humble et beaucoup plus fasciné par ses objets. Donc il y a cette question de la présence réelle et en fait c'est une grande interrogation sur la peinture. Wajman dit encore comme si l'art primitif lui permettait de voir sous la peinture. Et je crois que c'est vraiment ça que cherche Picasso avec ses objets. C'est d'ailleurs ce qu'il dit en sortant de sa visite au musée du Trocadéro qui est le début de son histoire avec avec ses objets, enfin en tout cas dans les premières années. Il dit ce n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir en informant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Et je trouve que essayer de mettre des mots là-dessus, c'est une chose difficile et intéressante.
Alors, fin du suspense. La dernière scène qui a trouvé grâce aux yeux de Florian Guettet.
Alors, je ne peux pas répondre à Naël Lafont.
Mais très rapidement, il nous reste trois minutes.
Très rapidement, je trouve que vous êtes bien indulgente à parler d'expérimental. Moi, je trouve ça très illustratif.
Ça l'a amusé, qu'est-ce que
effectivement,
vous
voulez. Effectivement, ces photos murales. Il y a des centaines de photos murales où on nous entoure pour bien dire que les statues sont...
Je parle de la deuxième partie, en parlant du regard et d'accord. De l'exercice du regard. Surtout.
À ce moment-là, plus. Cela dit, ce qu'on remarque, c'est aussi ce rapport plus. Très ambigu de Picasso aux arts primitifs. Effectivement, il dit l'art nègre, je ne connais pas. La première exposition qu'il voit au Trocadéro, en fait, il la trouve affreuse au départ, hein, quand même. Il dit que c'est un musée affreux.
Ça sent le moisi.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a toute une forme de nivellement, en fait, de toutes les cultures qui est assez étrange, en fait, comme s'il ne reconnaissait pas la spécificité qu'il voulait redonner une origine. Alors, effectivement, pour aller maintenant sur cette dernière salle, moi, je l'ai beaucoup aimé pour les raisons que vous venez de citer. Effectivement, ce rapport à la magie. C'est ce rapport à la magie qui me semble le plus important, plus que le côté très factuel et très historique d'une collection qui, d'ailleurs, n'est pas, où il n'est pas vraiment l'initiateur. Il est quand même précédé par Derain et Braque. C'est-à-dire qu'il suit quand même une mouvance. Il voit, en fait, les premières, je crois, les premières œuvres, il les voit chez Derain au départ. Donc il y a
c'est
aussi...
avec Derain qui va au musée des Trocadéro d'ailleurs.
Voilà, et c'est deux ans après en fait. Et donc là aussi, on remet les choses en perspective pour avoir. Et moi, je pense que ça aurait mérité un peu plus de présence de Derain et Braque et un peu plus peut-être d'humilité pour traiter ce sujet.
Bon, on voit que Florian prépare une expo Braque bientôt. Annaëlle Pigeat.
Un dernier mot, c'est qu'en fait, dans la deuxième partie, c'est le corps qui est présent, c'est pas le paysage, c'est vraiment c'est le vrai. Corps. Et ouais. C'est un aspect, à mon avis, enfin, je crois, très important. Chez Picasso, évidemment, et c'est un aspect extraordinairement sombre. C'est le corps montré dans toute sa noirceur et dans toute son obscurité.
Pas que, quand même.
Il y a un corps libidinal aussi.
Bah oui.
Quand même très sombre. Priapique, la dernière salle.
La dernière salle est très sombre.
Et c'est ça, l'apogée de l'exposition, tu vois, le point de.
Le tout dernier mot,
Florian? Non, justement, effectivement, j'ai oublié de décrire cette dernière salle, mais en fait, on a une œuvre elle est circulaire, on a une œuvre de Picasso, elle est entourée de 8 statues ou objets rituels, et effectivement, elle est plongée dans le noir, et ça lui donne une élégance et un côté orgie à mystère presque, que j'ai beaucoup aimé. En fait.
Et parler à ce moment-là d'autonomie et d'anachronisme de l'œuvre a vraiment du sens pour utiliser les termes de Karl Einstein.
Ben vous en avez beaucoup dit en peu de temps, bravo. Sur Picasso primitif au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, jusqu'au 23 juillet pour celle-ci. Et le catalogue de l'exposition est coédité par le musée du Quai Branly et les éditions Flammarion. Et pour cette fin d'émission, nous retrouvons Justine Dibling, la maîtresse du jeu, qui va pouvoir nous dire quelle était la réponse à la question du jeu d'hier au soir. Rappel de la question, puis enfin la réponse, Justine.
Alors la question, quelle est la chanson chantée par le portugais Sergio Goninho, dont la diffusion sur les ondes la nuit du 24 au 25 avril 1974 fut l'un des signaux choisis par le mouvement des forces armées pour lancer la rébellion contre la dictature? Et la réponse était Grandola Vila Morena.
Ah, j'attendais votre accent portugais, je n'ai pas été déçu. On reste au Portugal, décidément, avec ce soir des places de cinéma gagnées pour le film portugais, donc Saint-Georges de Marco Martins, qui est sorti aujourd'hui. Quelle est la question, Justine Dibling?
Quel est le film de Marco Martins qui parle de relations incestueuses entre un frère et une sœur?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. C'est un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, vous abonner ou vous réabonner au podcast. Il ne faut pas oublier de se réabonner parfois quand on ne les écoute pas parce que sinon le podcast s'arrête. Vous pouvez également nous écrire via ce site ou sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le Twitter Dispute FC. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Rosemont et Christophe Comte. À notre affiche, Volver de Benjamin Biolay, No Shape de Perfume Genius et Humans de Gorillaz. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.